Bon alors donc on peut commencer en évoquant votre place un peu marginale dans l'ésotérisme. Vous ne considérez pas comme ésotériste.
Exactement, on m'a collé cette étiquette sur le dos. Enfin, j'ai commencé, si vous voulez, mais je ne dis pas mes études de philosophie, mais la reprise de mes études après une période d'activité politique, c'est par la rencontre d'un ésotériste que j'ai subi la secousse qui m'a sorti de la politique. Alors, cet ésotériste s'appelait Pierre de Combat, je le considère, si, pour employer le langage habituel, comme mon maître spirituel. Il a été mon initiateur, en quelque sorte. Cet homme avait tout vu et ça m'a permis d'emblée, si vous voulez, d'acquérir des notions qui sont très digérées. Donc de simplifier mon travail. Par exemple, il avait le tout bien haut. C'est un exégète remarquable de la Bible. Mais pour ce qui vous intéresse, surtout, c'était un homme qui pratiquait une science numérale que je considère aujourd'hui comme fantaisiste, approximative, dénuée de fondements scientifiques, mais quand même extrêmement évocatrice. Des exercices à blanc, si vous voulez. Et rien ne dit que dans les écoles anciennes, l'école rabbinique, les kabbalistes, dans les premiers niveaux de l'initiation, on ne faisait pas faire des exercices à blanc pour faciliter le maniement des nombres, n'est-ce pas, quitte ensuite alors à revenir plus tard à une sorte de, au-delà de cette formalisation, à une conception beaucoup plus spiritualisée, beaucoup plus opérative. Bon, enfin, cela dit, l'ésotérisme a donc été pour moi un recommencement après mes études de philosophie, que je n'ai jamais abandonné en fait, mais ça m'a permis quand même de reprendre pied. Et tout en constatant que cet ésotérisme-là restait très dogmatique. Il ne manquait pas de base métaphysique, bien entendu. Il y avait des axiomes, il y avait des bases métaphysiques solides, mais très vite je me suis aperçu que ces bases étaient des postulats et des présupposés, n'est-ce pas, et que par conséquent, si on les admettait, il fallait un peu un acte de foi au départ. Il s'est trouvé que tout de suite après, alors là, je parle d'une sorte d'oscillation complète, enfin sans inverse, je me suis intéressé à la phénoménologie moderne. J'ai lu Sartre, j'ai lu Merleau-Ponty, et à travers eux et contre eux par réaction, je suis remonté à leur source, c'est-à-dire à Husserl. Et ce que je dois dire, par Husserl, réellement, j'ai dépassé, enfin, j'ai essayé de dépasser l'ésotérisme proprement dit. J'ai essayé, si l'on peut dire, de démontrer la validité des méthodes, des opérations ésotériques par la phénoménologie de Husserl, qui est une phénoménologie qui se veut rationnelle, bien que de rationalité, comme il dit, transcendantale, mais néanmoins, j'essaie de faire la conjonction des deux. D'une façon forcément très tâtonnante, très confuse au début. J'ai mis très longtemps. Et en même temps, par conséquent, que je travaillais sur la numérologie biblique dans mon premier essai pour Gallimard à la fin des années 40, c'est paru, parce que ces deux essais sont parus sous le titre La Bible, document chiffré en 1950. En même temps que je travaillais à cela, je m'intéressais donc à la phénoménologie transcendantale ultramoderne, qui pour moi d'ailleurs est la philosophie capitale de l'Occident au XXe siècle. C'est un jugement discutable, mais enfin c'est le mien. Je fais ça en même temps, sans que l'intégration se fasse. Il y a eu une juxtaposition, d'où le caractère très imparfait, très aventureux, et finalement très insatisfaisant pour moi de ces premiers essais de numérologie biblique, qui ont été très vite vendus chez Gallimard, sans un succès commercial, sans être, vous savez, évidemment publicitaire. Il était quand même assez rapide. Je veux dire par là que le premier tome a été épuisé dans les deux ou trois ans, mais le second a suivi ou presque tout de suite. Mais j'ai toujours refusé la réimpression, parce que la réimpression se faisait forcément à l'identique, aussi, se contentait de photographier. Parce que tout de suite après, 1951, immédiatement après, ça venait à peine de paraître, j'ai donc eu la notion au-delà de Sartre et de Merleau-Ponty, et grâce aux méthodes husserliennes de phénoménologie, on pouvait travailler dans le sens de la constitution de ce que j'appelais plus tard la structure absolue. J'ai eu la première idée de la structure absolue par réaction contre Sartre, son refus de l'intuition du moment présent. Il disait le moment présent est vide, n'est-ce pas? C'est un moment entre un passé qui n'existe plus et un avenir qui n'existe pas encore. Et alors il y a là une sorte de fissure béante, n'est-ce pas? Où il n'y a rien. Alors, cela contredisait évidemment l'expérience la plus directe de ceux qui ont connu les états d'intuition, même d'illumination si on veut, enfin, d'intuition simplement, d'inspiration. Tous les mathématiciens, même au niveau le plus intérieur, ont eu cette sensation de plénitude du moment présent. Alors, par réaction violente, n'est-ce pas, contre l'être le néant de Sartre, et sa notion de l'incommunicabilité entre les consciences aussi. Alors, j'étais en Suisse à ce moment-là et j'ai eu brusquement cette notion qu'il fallait commencer par le commencement. Et comme Merleau-Ponty venait de publier la phénoménologie de la perception qui me paraissait vraiment très infidèle à l'esprit général de Husserl, j'ai essayé de mettre en structure le phénomène le plus élémentaire, c'est-à-dire la perception. Comme Merleau-Ponty, lui, il n'avait pas mis en structure, mais en fait, il était bien parti d'où il fallait, la phénoménologie de la perception. C'est le titre de son livre, mais ça ne me satisfaisait pas du tout. Et comme je suis quand même de formation mathématique, j'ai essayé de faire des schémas et j'ai trouvé tout de suite, n'est-ce pas, la mise en croix sur la théorie de la connaissance. La théorie de la connaissance depuis 2500 ans se pose la question comment l'objet est-il appréhendé par le sujet ? Comment un objet qui est extérieur peut-il être saisi par le sujet qui n'a rien de commun avec lui, évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette perception de l'extérieur par l'intérieur? Et depuis 2500 ans, il faut bien le dire, toutes les théories de la connaissance ont été dualistes. Elles ont opposé un sujet et un objet. Et par conséquent, restant dans la dualité, elles se sont trouvées dans une impasse. Et le seul résultat qu'elles ont obtenu, c'est qu'elles ont été obligées de faire des présupposés. Alors, ça a été tantôt l'idéalisme, tantôt le matérialisme, n'est-ce pas, ou l'empirisme. Tantôt, c'est l'objet qui commandait et le sujet n'était plus qu'une conséquence, la pensée n'était plus qu'une conséquence des phénomènes sortant de la matière. Tantôt inversement, tout était performé dans l'esprit, l'idéalisme. Et alors ces deux écoles-là, depuis 2500 ans, se sont contrebattues, n'est-ce pas? Et nous avons assisté, alors, à la suite de cette dispute, à la naissance du phénomène universitaire, où la toute bonne dissertation dit premièrement thèse idéaliste, deuxièmement thèse matérialiste, et puis troisième partie, on fait une synthèse verbale qui ne signifie rien, n'est-ce pas? Bon, finalement, il n'y a aucune création dans cette démarche-là, on se borne à répéter comme des perroquets la thèse idéaliste, la thèse empiriste, etc. Bon. Et je me suis aperçu qu'en réalité, dans une perception, ce n'était pas un objet et un sujet qui étaient en face l'un de l'autre. Il y avait en réalité une croix. Il y avait quatre pôles et pas deux. Il y avait d'un côté, du côté de l'objet, vous aviez l'objet, mais vous aviez le fond du monde sur lequel il s'enlève, car sans monde derrière, il n'y a pas d'objet. Et du côté du sujet, vous aviez un organe d'essence, et vous aviez ensuite le corps tout entier. Parce que l'organe d'essence, lui, est à la limite, à la périphérie, et le cerveau, lui, est central, n'est-ce pas? Et ce qui le montre d'ailleurs symboliquement, c'est quand l'image forme l'œil d'un objet, quand l'œil forme l'image d'un objet, le cerveau est obligé de la renverser, n'est-ce pas? Bien. En d'autres termes, il y avait donc quatre pôles, le monde, le corps, l'objet, l'organe d'essence et le corps, l'organe d'essence et le corps global. Autrement dit, la sensation reçue par l'organe d'essence se faisait perception. Il y a une différence capitale, une transcendance nette entre sensation périphérique et perception centrale ou globale. Et on s'aperçoit très vite que tout ça, ça se met à tourner. Et que se mettant à tourner, ça crée forcément que ce sont deux couples d'opposition. Mm-hmm. Le couple d'opposition, c'est le béaba du structuralisme, n'est-ce pas? Ces deux couples d'opposition tournent en sens inverse. Et ça crée par conséquent un axe vertical de rotation. avec une descente et une montée, une incarnation et une assomption. D'où la sphère assipole, le Seigneur, qui a été la structure absolue. Et je me suis aperçu tout de suite, très vite en tout cas, très vite, au début des années 50, que ce que j'avais écrit dans la Bible, le document chiffré, en d'autres termes, toute ma conception de l'ésotérisme, qui en dépendait, était désordonnée, aventureuse, parce que je n'avais pas réduit les textes hébraïques essentiels de la Kabbale à cette structure absolue. Alors tout mon effort a consisté à essayer de démontrer phénoménologiquement, car je tombais grâce à cette structure en plein dans la phénoménologie de Husserl, le moi transcendantal étant au centre de la sphère, a tendu à démontrer qu'il y avait une identité entre ces textes et la structure absolue, et que notamment l'arbre des Séphirot du Zohar et les Séphirot Belima du Sefer Yetzira, ce qui n'est pas la même chose, il y a deux sortes de Séphirot, vous avez l'attention, et la structure de l'alphabet hébreu était identique à la structure absolue. Et ça, c'est relativement facile à démontrer, en tout cas pour la structure de l'alphabet hébreu telle qu'elle est exposée dans le Sefer Yetzira, non seulement exposée, explicitée, enfin donnée presque mot à mot, n'est-ce pas, littéralement, sans cryptage particulier. Il est évident, immédiat, que la structure de l'alphabet hébreu n'est rien d'autre que la structure absolue. Alors, comme la structure absolue est une génétique, que c'est dialectique, que ça tourne, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une structure qui est un simple schéma géométrique. Et à ce moment-là, il est sûr que l'alphabet hébreu étant lui-même génétique, alors donne l'ensemble des Séphirot Belima et l'arbre des Séphirot qui n'ont pas du tout la même configuration, parce que les Séphirot Belima, d'emblée, vous sont donnés sous une forme sphérique. L'arbre des Séphirot du Zohar est donné sous une forme plane de triangulation. Mais alors justement, tout le problème de la désocultation consiste à passer de ces formes géométriques tout à fait différentes, l'une est sphérique et l'autre est plane, un ensemble de triangulations planes, consiste à passer à la structure absolue.